Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, et on fera évidemment aussi une psychologie de masse du capitalisme du XXe siècle, mais aussi du capitalisme contemporain. Et donc, pour parler de ce sujet et en même temps de cet ouvrage, nous sommes avec Pierre-Ulysse Baranque, doctorant à Paris 1, co-directeur de In situ, théorie, spectacle et cinéma chez Guy Debord et Raoul Van Eygem, paru aux éditions Gruppen en 2013, et auteur sur notre sujet d'un article dans Contretemps qui consistait donc en une discussion de la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, qui est paru en premier en Allemagne en 1933, donc qui est la date d'arrivée au pouvoir d'Hitler et des nazis, et qui a été réédité chez Payot et Rivage en 2003. Donc bonjour Pierre-Ulysse.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette émission? C'est parce qu'on pense qu'il y a un manque dans la théorie critique et la critique sociale contemporaine, qu'elle soit portée par des théoriciens ou par des militants, qui a tendance à sous-estimer l'importance des facteurs psychologiques non rationnels, c'est-à-dire des facteurs qui ne ressortissent pas de la critique du capitalisme, de l'économie politique, de structures comme le patriarcat et tout ça. Parfois, à juste titre, en disant « mais la psychologie, ça ne nous intéresse pas, c'est des explications biologisantes ou psychologisantes et tout ça ». Et justement, ce qu'il y a d'intéressant chez Wilhelm Reich, c'est que lui a tenté de penser cette part subjective de l'histoire, comme il dit, penser cette part de manière sociale. Et c'est pour ça que, justement, il parle de psychologie de masse ou qu'il parle de psychologie politique. Et nous, on pourrait rajouter, il parle finalement de psychologie sociale. C'est-à-dire comment est-ce que des phénomènes sociaux peuvent avoir des causes psychologiques, pas que psychologiques, mais notamment psychologiques, donc notamment avec le nazisme, hein, qui ne s'explique pas par une analyse de classe, par exemple, ou en tout cas pas que par une analyse de classe. Et encore plus intéressant, comment est-ce que cette part psychique qui explique des phénomènes sociaux est à son tour explicable par des structures sociales profondes, puisque justement dans cette optique, le capitalisme c'est pas juste un système d'exploitation, c'est pas juste le travail, etc., etc., mais c'est aussi quelque chose qui va remodeler jusqu'à notre psyché, notre inconscient, notre personnalité. Et donc voilà, c'était tout ça qu'on voulait apporter la critique sociale contemporaine et la rendre accessible, parce que c'est quand même un livre assez volumineux, la psychologie de masse du fascisme. Il y a quand même pas mal de concepts psychanalytiques, ça se crée dans un contexte, on ne serait pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit aujourd'hui. Et puis surtout pour réactualiser tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire cette émission. Alors peut-être pour commencer, comme tu le fais dans ton article donc, qui s'appelle « Wilhelm Reich et la révolution absente, penser l'entre-deux-guerres avec Marx et Freud », on pourrait peut-être repartir de pourquoi est-ce que lui, à son époque, il a senti le besoin justement de ne pas en rester à une théorie critique rationnelle qui s'intéresse pas à la psychologie. Et pourquoi est-ce que nous, bon alors nous, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? On va le dire de but en blanc, c'est la remontée du néo-nationalisme dont on va parler à la fin de l'émission. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il s'y est intéressé? Quel contexte historique qui va l'amener à penser cette psychologie de masse du fascisme?
Eh bien justement, l'intervention, l'analyse, tout ce travail qu'a produit Wilhelm Reich dès 1930, la rédaction du livre Psychologie de masse du fascisme commence en 1930 et est publiée dans sa version finale en 1933, c'est vraiment le produit d'un impensable politique, d'un impensable en plus catastrophique, puisque Wilhelm Reich est autrichien, il vit en Allemagne, il est donc dans le monde germanophone. Et à l'image de la plupart des autres militants et intellectuels de gauche du monde germanophone, germanique des années 30, et même déjà des années 20, la question de la révolution en Allemagne, est pour lui une question imminente. On sait qu'il y a eu une série d'insurrections en Allemagne dès 1918 jusqu'en 1923. Il y a quasiment 4 ou 5 insurrections qui ont toutes raté. Et ça, c'est vraiment un échec que ces intellectuels qui sont de la génération d'après, les années 20-30, vont essayer de penser. Et sur ce point-là, Wilhelm Reich serait à associer avec les analyses, par exemple, de Walter Benjamin dans les thèses sur le concept d'histoire ou d'Adorno. L'intérêt de Wilhelm Reich, c'est un point sur lequel j'ai mis l'accent, entre autres, dans mon article, c'est que Wilhelm Reich fait ce travail dès les années 30. Alors que chez Benjamin, c'est 1940, juste avant son suicide, et chez Adorno et Horkheimer, c'est même 1944, avec la dialectique de la raison. Donc finalement, il y a presque un aspect, on pourrait dire, ethnographique, si on veut, hein, analytique, immédiat du travail de Reich, puisqu'il voit le nazisme petit à petit prendre le pouvoir, contrôler de plus en plus les masses, et il le décrit avec ces deux outils intellectuels que sont pour lui le marxisme et la psychanalyse. Puisque Wilhelm Reich, avant 1933, est membre du Parti communiste allemand, du KPD, et en même temps, il est membre de l'Association psychanalytique internationale. Il a fait sa thèse, son mémoire sur la question de l'orgasme, c'est le fameux ouvrage La fonction de l'orgasme, thèse qu'il a fait avec Freud. Et Freud était très surpris qu'on puisse écrire un aussi gros essai sur la question de l'orgasme, puisqu'apparemment, quand Wilhelm Reich, il a transmis son mémoire, Freud aurait dit tout ça, autant de choses à dire sur la question de l'orgasme et de la libido. Donc il a cette double formation, cette double conceptualisation, et il va s'en servir pour penser cette catastrophe qui est l'échec de la Révolution, et pas n'importe quel échec, parce que c'est pas simplement le fait que la Révolution n'ait pas eu lieu, c'est bien pire que ça, c'est la prise du pouvoir du nazisme. Et donc, ça va être l'un des premiers grands penseurs de ce qu'on appellera plus tard le totalitarisme, d'autant plus que Reich, dans ce texte-là, non seulement pense le nazisme, mais il y a aussi des pages très éclairantes, notamment sur le stalinisme. Donc c'est un des marxistes qui n'a pas...
Pour reparler des événements dont tu as parlé, oui, effectivement, l'Allemagne donc a connu donc la révolution de novembre de 1918, l'insurrection spartakiste de 1919, où du coup Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht vont perdre la vie. Et puis il y a l'insurrection de la République des Conseils de Bavière la même année, l'insurrection de mars 1921, l'échec de l'octobre allemand de 1923, et toute cette génération, voilà notamment voilà l'école de Francfort, est marquée par cet échec. Mais cet échec pouvait encore être expliqué par voilà le triomphe des forces de répression. Alors que l'apport de Reich, c'est de penser aussi la situation, non pas l'échec de la révolution, mais aussi finalement le triomphe de la
Bien
contre-révolution,
sûr, bien sûr.
qui évidemment découle aussi de l'échec de la révolution, et d'essayer voilà, d'en proposer des causes, parce que comme tu le dis bien dans ton article, la plupart des marxistes n'avaient pas du tout prévu le triomphe de la contre-révolution fasciste. Et évidemment, ça nous intéresse pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui, est-ce qu'on a prévu, est-ce qu'on prévoit, on n'espère pas qu'il va se passer quelque chose de l'ordre des années 30, mais il faut, voilà, disons, au moins gagner en capacité analytique pour mieux regarder la situation qu'eux ne l'avaient regardée. Et en fait, ce qui est très intéressant chez Wright, c'est qu'il critique, tu le dis bien dans ton article, la téléologie de la Révolution. C'est-à-dire, en gros, tout est inéluctable, on va inéluctablement vers le communisme. C'est aussi ce que, pour ça que tu parles de Walter Benjamin aussi, qui critique un peu cette téléologie. Et sans tomber dans un truc ultra pessimiste et tout ça, lui, vraiment, il essaye de, voilà, d'analyser bah, pourquoi est-ce que pourquoi cette téléologie, elle marche pas. Bah, parce que il y a ce facteur, voilà, cette théorie, ce facteur subjectif de l'histoire qui existe. Et donc, voilà, donc, on arrive en 1933, le Parti communiste allemand a plus ou moins, parfois, enfin, a clairement dit, l'ennemi, c'est la social-démocratie, c'est le dernier obstacle avant le triomphe de la révolution socialiste, parce que c'était eux qui avaient liquidé, effectivement, la première révolution de 1918 à 1923. Et ils vont finir par avoir un rapport un peu malsain avec le mouvement nazi. Bon, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé dans une autre émission sur 36 en France. Mais voilà, donc tous les intellectuels marxistes sont surpris et Reich va se distinguer. Alors déjà, peut-être quels sont les éléments du fascisme qui ont mis Wilhelm Reich sur la piste de ce qu'il va trouver. Et enfin, qu'est-ce qu'il va trouver un peu comme cause, justement, de cette contre-révolution fasciste nazie?
Oui, c'est tout à fait important quand tu as rappelé cette téléologie qu'a critiqué Benjamin. Dans les thèses sur le concept d'histoire, Benjamin rappelle, je le cite, « Rien n'a plus corrompu le mouvement ouvrier que la conviction de nager dans le sens du courant. » Comment croire qu'ils étaient aux portes du pouvoir, que la victoire de la révolution était inéluctable? C'est une erreur tant celle de la social-démocratie, puisque c'est qu'avant tout, cette téléologie de l'histoire imaginait en gros qu'au vu du développement des forces sociales et économiques, le capitalisme allait s'effondrer et donc que le mouvement ouvrier allait recevoir quasiment le pouvoir d'une manière immédiate. C'était la grande thèse de la Seconde Internationale, qui va être reprise après par les communistes avec la Troisième Internationale. Et d'autant plus que la grande crise du capitalisme, les Allemands l'ont vécu avec 1929. Et quelqu'un comme Reich, voilà, je le rappelle, il écrit dès 1930, donc il voit que cette crise n'a eu aucun effet d'accélération de l'histoire et de réappropriation du pouvoir par les masses allemandes. Il voit même exactement l'inverse, il voit que la réaction est en train de gagner. Et c'est ça vraiment l'origine de cette réflexion. Et d'une certaine manière, c'est moins quelque chose qu'il aurait perçu dans la nature du nazisme. Finalement, le nazisme est presque l'effet secondaire de son analyse. Sa première réflexion, c'est sur l'absence de révolution. Ça commence d'abord avec ça, d'où le titre de mon article, hein, Reich et la révolution absente. Finalement, le nazisme est le dernier symptôme, l'effet secondaire est catastrophique, qui va apparaître de cet échec de la révolution. Et le penser comme phénomène premier, c'est justement une manière de mal comprendre toute cette histoire. Là, pour le coup, le nazisme, avec son spectaculaire fasciste, cette esthétique de la politique dont parlait Benjamin dans l'œuvre sur l'œuvre à l'ère de sa reproductibilité technique, cette esthétique, cette spectacularisation nazie, et aussi peut-être un arbre qui cache la forêt sur cette période-là. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à Reich, et qui a été l'un des auteurs qui a travaillé cette question-là au moment même où elle est apparue. Donc finalement, l'origine de ça, la réflexion de Reich, c'est d'abord voilà, l'absence de cette révolution, pourquoi la révolution a échoué, et selon lui, si la révolution a échoué, c'est pour une cause fondamentale, mais qui aurait deux dimensions, une dimension politique, les mouvements de masse du mouvement ouvrier ont échoué, c'est-à-dire la social-démocratie et le KPD a échoué, et cet échec politique est lui-même l'effet d'un échec théorique. Donc il y a quelque chose à penser. L'absence de révolution, l'échec de la révolution, c'est un problème, à la fois théorique et politique. Reich est à la fois un intellectuel et un militant, il ne sépare jamais les deux. Il n'y aurait pas des problèmes qui seraient purement théoriques et d'autres qui seraient purement politiques, c'est ce double phénomène. Et penser cet échec de la théorie marxiste des années 20, des années 30, c'est remettre en cause aussi une partie du marxisme, en tout cas du marxisme tel qu'il est vécu dans cette période-là, et c'est penser, c'est mettre en critique un certain déterminisme, déterminisme économique, ouais. Économique unilatéral, qu'on trouve dans le marxisme et de la social-démocratie et du Parti communiste, et qui est une lecture, on va dire, assez simpliste, parce qu'on regarde et Marx, Engels, on voit que c'est une pensée beaucoup plus riche que celle-là. Une pensée assez simpliste où, en gros, ce sont les déterminations sociales pures, les déterminations économiques, qui produisent tel type de conscience sociale, de conscience de classe. Et donc, il suffirait d'être dans une situation où les déterminations sociales permettent la révolution pour qu'il y ait un mouvement révolutionnaire et qu'on passe, pour reprendre la formule de Marx dans la misère de la philosophie, de la classe en soi à la classe pour soi. C'est-à-dire qu'une conscience de classe, une conscience de la nécessité de la révolution apparaissent en raison du degré de crise dans lequel est rentré le capital. Et justement, mettre la psychanalyse dans le marxisme, c'est une façon de résoudre cette limite théorique, de résoudre cette aporie, et d'ouvrir le marxisme vers un développement intellectuel nouveau.
Ouais, ce que tu dis, c'est très important, parce que là, ça fait inévitablement penser à la situation actuelle, puisqu'on est dans une phase de crise prolongée depuis un certain nombre d'années, et pour autant, on n'a pas l'impression qu'on est devant un mouvement irrésistible de l'histoire vers le communisme. j'en blague un petit peu, mais voilà, on n'est pas du tout sur ce type de mouvement, et au contraire, on assiste à une remontée du néo-nationalisme. Et d'où l'intérêt, même s'il ne faut peut-être pas faire trop de parallèles entre la situation dans les années 30 et la situation maintenant, en gardant, disons, un écart entre ces deux périodes, il y a quand même le même problème qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans une phase de crise qui semble démontrer que le capitalisme, voilà, c'est une société qui est en échec. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poussée, de montée incroyable des courants libertaires et révolutionnaires, mais au contraire, plutôt une montée... Alors bien sûr, il y a une petite montée quand même, hein, on va pas la nier, mais il y a quand même une plus forte montée encore de l'extrême droite. Et ce qui est intéressant chez Reich, c'est que il explique à la fois la montée du nazisme par le fait que justement les nazis ont su s'adresser, ont su manipuler la part subjective de l'histoire. Ils ont su parfaitement la manipuler et tout ça. Mais en plus, cette part manipulée, elle était manipulable. Et du coup, c'est aussi une question sur, c'est pas seulement le fascisme, c'est aussi une question sur le capitalisme. Donc peut-être on va revenir sur ces deux trucs en deux temps. Voilà. Pour Reich, qu'est-ce qui a marché dans le fascisme qui n'a pas marché justement dans le communisme et dans la social-démocratie, qui s'adressait uniquement d'un point de vue rationnel, du genre les nazis, ils sont liés au grand capital, il faut pas aller voter pour eux. Comment est-ce que les nazis ont pris en compte cette part subjective de l'histoire et en ont fait quelque chose qui leur a permis de triompher?
C'est comme si pour Wilhelm Reich, l'apparition du nazisme était l'occasion de faire un commentaire sur le marxisme, de faire une apostille, une correction sur un aspect de la théorie marxiste, et notamment sur des phénomènes que le marxisme explique pas ou explique peu, voire explique mal. C'est, comme tu le dis, cette question du facteur subjectif de l'histoire, qui n'est pas du tout à interpréter d'une manière idéaliste, du subjectivisme kantien, etc. Là, c'est vraiment l'apport de la psychanalyse pour Reich. La psychanalyse est une science qui permet de comprendre la dimension subjective des phénomènes sociaux. Et d'ailleurs, pour lui, c'est une science tout aussi matérialiste que le marxisme. C'est pour ça qu'il peut les associer, les combiner théoriquement. Et d'ailleurs, sur cet aspect-là, ce serait assez intéressant de montrer les liens entre l'analyse de Reich et l'analyse en France de Breton, notamment dans Les Vases Communicants, où il affirme l'aspect matérialiste de la psychanalyse et tout ce qu'elle peut apporter au marxisme. Ce qui nous inviterait aussi à faire une lecture non idéaliste de Breton lui-même. Mais vraiment, ce que va percevoir Reich avec l'apparition du nazisme, c'est que le marxisme n'a tout simplement pas les éléments à son époque pour penser cette manipulation subjective des masses, et sur une dimension des rapports sociaux qui est fondamentale pour lui, qui est la dimension, on va dire, psychologique, émotionnelle, libidinale, dimension que le freudisme, lui, peut théoriser. Et au travers donc de cette voilà, combinaison hein, du marxisme et du freudisme, Reich va percevoir à quel point il y a une manipulation des inconscients des masses, à la fois pour chacun, à l'échelle de l'individu, puis à l'échelle des groupes sociaux, à l'échelle des masses. Hein. C'est à la fois une manipulation en tant qu'individu et en tant que groupe, tu vois. Et qui va être justement à l'origine de cette victoire du nazisme, au point que le nazisme, pour Reich, n'est presque pas finalement un projet politique. Et quand on regarde le contenu de l'idéologie nazie, c'est absurde, c'est contradictoire, etc. C'est avant tout presque une névrose qui s'est donnée une dimension politique, une névrose de masse, d'où le titre « Psychologie de masse du fascisme ». C'est une névrose qui est devenue une politique, finalement, plutôt qu'une forme politique qui aurait capté une névrose. Le voir de cette manière-là, ce serait une erreur et presque un contresens. C'est avant tout l'effet de l'aliénation des masses qui a produit le nazisme, l'aliénation des masses dans le capitalisme pendant l'Allemagne des années 20-30. C'est pour ça qu'on pourrait faire le rapport aujourd'hui avec l'aliénation des masses dans ce monde de 2017, post-crise de 2008, etc. Cette dimension voilà, libidinale, émotionnelle, psychologique, si tu veux qu'on entre un peu plus précisément dans l'interprétation de Reich, c'est la question d'une conversion de la dimension émotionnelle des sujets, une conversion sadique, un retournement sadique de la frustration des masses. Frustration des masses qui est elle-même produite par les limites du capitalisme et par l'aliénation au capitalisme, ne serait-ce que l'aliénation au travail et la surexploitation des travailleurs dans le mode capitaliste et surtout dans la crise terrible que vit l'Allemagne dans les années 20-30. C'est cette frustration émotionnelle des masses qui va être captée par le capitalisme et sous sa forme nazie, tu vois. C'est presque comme, si on fait le parallèle avec la théorie de Marx, avec le capital de Marx, de même qu'il y a une surexploitation de la force de travail, de l'activité, de l'ouvrier, dans le marxisme, surexploitation qui va être convertie en capital, et que le capital qui n'est que l'activité du travailleur à l'origine, se retourne contre lui-même, contre ce travailleur, comme force étrangère. De même, il y a une dimension émotionnelle et psychologique des individus, des masses allemandes dans ce cas-là, qui va être exploitée, convertie, retournée, du fait de la frustration produite par le capitalisme et de son exploitation des individus, et qui va être utilisé aux finalités du nazisme et aux finalités très très précises, là aussi de Reich ne nous laisse aucun doute là-dessus, dans la finalité du développement de l'impérialisme allemand. C'est-à-dire que la frustration des masses est convertie en sadisme à l'échelle collective, et ce sadisme devient le moteur, l'énergie d'une dynamique de l'impérialisme allemand, dynamique de l'impérialisme allemand qui est voilà, la politique du nazisme.
Jusqu'à l'extermination
d'un peuple. Et la destruction de l'Europe, elle-même. Oui. Et repensant aussi à la politique nazie en Europe de l'Est, qui avait quand même pour but de faire des peuples slaves des esclaves surexploités. Bon, c'est toute une politique réellement coloniale en Europe qui est clairement proposée dès les années 30 par Hitler. Et pour nourrir ce projet aussi mortifère et terrifiant, le nazisme va capter petit à petit cette dimension psychologique que le marxisme n'a pas voulu voir. Et c'est ça le grand reproche que fait Wilhelm Reich, à la fois aux communistes et à la social-démocratie, mais particulièrement aux communistes, puisqu'il était membre du KPD, c'est que face à cette question de l'exploitation de l'inconscient des individus, en fait, de sa surexploitation utilisée à des fins de domination à l'échelle européenne, le marxisme et le Parti communiste allemand en particulier n'a tout simplement rien proposé. C'est même pas qu'il a mal réagi, ou etc. C'est qu'il n'a aucune force émancipatrice à proposer à cette force mortifère qui est devenue le nazisme. Et sur cet aspect-là, Reich est très très clair. Finalement, ce qu'il constate, c'est que la gauche allemande a été complètement dépourvue face au nazisme. C'est même pas une erreur ou un échec stratégique, c'est qu'elle n'a eu rien à proposer, ce qui est bien pire, évidemment.
Oui, c'est ça qui est très intéressant, justement, chez Reich, c'est le fait qu'il. Enfin, en fait, finalement, les partis communistes, les partis marxistes, sociaux-démocrates ou communistes, se sont reposés sur une espèce de soi-disant science téléologique de l'histoire, qui faisait que, de toute façon, ils n'avaient rien à faire, à part bon, faire des meetings politiques et conscientiser les masses de manière ultra-rationaliste en disant. Le capital vous exploite, donc révoltez-vous, ce sera le communisme. Et lui, au contraire, je vais revenir juste après sur ton explication qui est hyper éclairante, parce qu'elle est aussi éclairante pour aujourd'hui, sur la captation de la frustration des masses. Mais tout d'abord, lui, il a quand même essayé de faire quelque chose à ça, et il a essayé voilà, justement de s'adresser aux gens, non pas de manière... rationaliste et tout ça, mais plutôt en proposant une révolution sexuelle, et sexuelle là au sens large. Un projet de vie radicalement différent qui passerait par l'épanouissement personnel avant, disons, une organisation froide et bien huilée, planifiée et tout ça.
C'est que Wilhelm Reich, et c'est là aussi son écart par rapport au marxisme, ne pense pas seulement les individus comme êtres biologiques ou comme êtres sociaux, dimension analysée magnifiquement par Marx dès les manuscrits 1844, l'homme comme partie de la nature, c'est tout le spinozisme de Marx qui apparaît. Il ne s'agit pas seulement de penser l'homme comme, voilà, comme être vivant ou comme être social, mais aussi penser l'homme dans sa dimension psychique. Et certes, le capitalisme exploite la survie biologique et les caractères sociaux, les rapports sociaux immanents à la production de la vie commune dans la société, dans l'économie, etc. Mais il y a aussi une dimension psychique des individus. Et s'il n'y a pas de, comment dire, de besoin biologique à la satisfaction psychologique, émotionnelle, libidinale et donc sexuelle, et sexuelle là aussi au sens très large du terme, au sens que l'entend la psychanalyse, c'est pas seulement des pratiques sexuelles ou de ce que la psychanalyse appellerait la génitalité, mais sur la satisfaction de l'état émotionnel de l'individu. Dans la psychanalyse, le terme sexuel pose la question du plaisir en général, et pas seulement de ce que nous on entendrait par sexualité. Il y a vraiment un besoin psychique, un véritable besoin psychique à la satisfaction de la libido. Pour Reich, la grande découverte de Freud, c'est avant tout la découverte de la libido. Même plus que la découverte de l'inconscient lui-même, puisque Reich a fait la généalogie de l'invention psychanalytique, qui sait que le concept d'inconscient avait déjà des précédents avant Freud, d'ailleurs Freud le reconnaissait lui-même, hein. C'est vraiment la question de la libido, et donc d'une dimension émotionnelle, en cela donc pas seulement rationnelle, d'une irrationalité constitutive des sujets, que Reich va étudier grâce à Marx et à Freud. Et c'est ce déni, c'est cette dénégation de ces dimensions-là qui, pour lui, est vraiment l'origine de l'échec de la gauche allemande. C'est du fait même de cette, voilà, de ce, pour le coup, de cet refoulement, et qui est commun et à la gauche allemande et au freudisme. Parce que là, sur cet aspect-là, Reich est très clair. Le marxisme a ignoré la psychanalyse, mais la psychanalyse a également ignoré le marxisme, et Reich est aussi dur vis-à-vis de l'un que vis-à-vis de l'autre, il est très critique, notamment du conservatisme politique de Freud.
Justement, comment est-ce que la société capitaliste fabrique de la frustration, ne permet pas l'épanouissement sexuel, donc au sens large, l'épanouissement des individus, ce qui crée, en fait, une souffrance, pour le dire autrement, une souffrance forte des individus, qui vont avoir besoin de décharger. Et c'est là où on voit à la fois la convergence et divergence avec notre époque, c'est qu'aujourd'hui, globalement, cette frustration, elle est beaucoup, et le déchargement qu'elle rend nécessaire, est beaucoup instrumentalisé par le spectacle au sens de Debord, par, bon, pour donner des exemples un peu concrets, par la publicité, par la pornographie, par la consommation de manière générale. Mais c'est une instrumentalisation qui n'est pas seulement faite par le capitalisme. mais qui peut être aussi fait par des mouvements politiques, et c'est ce que vont faire les nazis. Ils vont donc, comme tu l'expliques et comme le Reich l'explique, utiliser cette énergie de frustration et ce besoin de décharger cette frustration par une esthétique extrêmement guerrière et viriliste, par donc voilà, des coups de poing, des bagarres, et puis ensuite par...
Une politique raciste, évidemment, aussi.
Une politique raciste, évidemment, par des immenses meetings où il va y avoir une espèce de force collective de déferlement de haine qui se crée, une espèce de communion des frustrés dans le déchargement de la haine, et déferlement de la haine qui passe par un médiateur qui va être Hitler, qui finalement, en se déchargeant lui-même de sa frustration, par une espèce d'identification des masses à Hitler, vont en même temps, elles aussi, se décharger par la haine. Et l'antisémitisme, voilà, évidemment, c'est pas qu'un antisémitisme matérialiste, économique, genre on va se réapproprier des biens matériels. Ça a aussi un fondement, voilà, très psychique, quoi.
Ah oui, avec la communauté juive allemande comme bouc émissaire de l'ensemble de la nation et objet du sadisme national qu'est le nazisme. Il y a, d'une certaine manière, il y a vraiment plusieurs livres presque dans la psychologie de masse du fascisme. On pourrait parler de différents aspects. Moi, j'ai plutôt centré mon travail sur la question du sadisme et donc de l'extrême droite. Il y a toute une partie sur notamment la conversion masochiste de la frustration, notamment dans le christianisme. Mais le christianisme réactionnaire, c'est plutôt la génération d'avant pour Reich, c'est plutôt peut-être l'époque de Bismarck. Donc c'est peut-être plus intéressant de mettre l'accent sur le nazisme. Finalement, Reich est presque une sorte de second Marx, on pourrait dire, dans la mesure où il voit qu'il n'y a pas que l'exploitation de la force de travail, il y a aussi l'exploitation de la psychologie des individus, l'exploitation de leurs émotions. Et je le rappelle une fois de plus, cette exploitation est une exploitation physique. Ce qui est à l'origine de la libido chez Freud comme chez Reich, c'est le caractère physique de l'émotion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans les corps. Hein. Ce n'est pas, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas dans l'idéalisme. C'est la puissance émotionnelle que chaque corps a en lui et qui fait phénomène de masse à l'échelle d'une nation qui est exploitée. Et dans le cas du nazisme, on voit très bien que cette frustration est détournée dans un certain sens. Il pourrait détourner sous un autre mode, par exemple masochiste dans le christianisme conservateur, mais le coût politique et psychologique finalement que va faire le nazisme, c'est de le développer vers la jouissance sadique, qui est une frustration en elle-même. Ça, c'est quelque chose des fois qu'on a du mal à saisir, c'est que le sadisme, ce n'est pas l'expression la plus haute, ou même le développement le plus fort, de l'émotion et de la libération de la libido. Au contraire, c'est une jouissance pauvre pour Reich. Ça, c'est quelque chose qu'on a des fois du mal à saisir, et peut-être parce que notre société est elle-même tellement intrinsèquement sadique qu'elle n'arrive pas à comprendre la médiocrité, la pauvreté du sadisme. Mais là aussi, ce qui est intéressant avec Reich, c'est que ça nous sort de ce cliché, de cette erreur, de voir dans le sadisme, finalement, l'expression maximale de la libération du plaisir ou de la sexualité ou de la libido. Parce qu'en fait, que fait le sadique? C'est ça la question que pose Reich. Que fait le sadique et que font les sadiques collectifs que sont les nazis ou le nazisme lui-même? En fait, frustré dans l'expression de son émotion, puisque les conditions sociales, les conditions économiques à la réalisation satisfaisante de cette émotion n'existent pas du fait de l'exploitation par le capitalisme, que va faire le sadique? Il va jeter, c'est pour ça que tu parles du terme de décharge sadique qui est dans le texte hein, de Reich, mais qui est vraiment dans la description même des textes sadiens. Quand on lit ça, quand on lit les 120 journées de Sodome, l'orgasme est présenté comme décharge, toujours, comme on se débarrasse de quelque chose. C'est quand même surprenant, cette réification, cette objectivation de l'émotion qui, normalement, est intérieure et propre au sujet. Donc, quelle est la situation, quel est le processus sadique tel que l'analyse Reich? C'est que, faute de pouvoir satisfaire son émotion, il va projeter le plus rapidement possible, le plus violemment possible sur un autre, cette frustration, d'où la violence. Et c'est cette projection sadique qui va être à l'origine, en même temps, du fait que cette jouissance, n'étant jamais satisfaite, est toujours renouvelable. C'est pour ça qu'il y a une exploitation permanente de la conversion sadique. Le sadique, comme le masochiste d'ailleurs, est perpétuellement insatisfait.
Ah oui, donc ce qui permet du coup un caractère dynamique et dynamique. Du fait que ça ne s'arrête jamais. Quoi.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'un système politique comme le nazisme peut l'exploiter presque comme si cette frustration devenait le moteur de sa puissance politique,
oui.
Puisque le sadique, le masochiste n'étant jamais satisfait, son symptôme se répète toujours, il y a toujours une répétition de cette conversion sadique, donc finalement, le processus de détournement politique du sadisme par le nazisme peut se prolonger d'une manière interrompue et même s'accumuler comme une force qui s'accumule vraiment quantitativement à l'échelle des masses. Et c'est pour ça que le nazisme a pris de plus en plus de pouvoir, et de plus en plus de puissance. C'est vraiment le développement d'une force exogène. C'est comme ça que Wilhelm Reich analyse ce phénomène. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le nazisme est presque l'effet secondaire de ce processus-là, plutôt qu'il en est la cause. Et jouissance sadique, expérience sadique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de faire le descriptisme du caractère sadique du nazisme, dans sa nature à la fois raciste, capitalistique, rapport de classe, puisqu'on sait les liens entre le parti nazi et les grands trusts allemands, et même aussi, bien sûr, le bureau militaire allemand. Ça, c'est des choses notamment sur lesquelles travaille Hartmann, en montrant à quel point finalement le nazisme était l'une des possibles qu'a développé le bureau militaire allemand en cas de révolution. Ils avaient soutenu quelques groupes d'extrême droite, et finalement, c'est l'un de ces groupes qui a pris le pouvoir, qui était le parti nazi. Ce qui est intéressant sur cette analyse-là, ça veut dire qu'il y a une continuité entre le nazisme et l'appareil militaire du Deuxième Reich, finalement, du Deuxième Empire. Donc finalement, entre bismarckisme et nazisme, il y a un déploiement, il y a une conversion, il y a un développement, mais il y a aussi une continuité. Ça, c'est un aspect assez important. Évidemment, un aspect important que Reich connaissait, et quand, d'une part, il étudie le masochisme chrétien, le conservatisme politique du christianisme sous l'époque de Bismarck, puis sa conversion sadique avec le nazisme, c'est que lui-même a conscience à la fois de la rupture et de la continuité entre ces deux périodes de l'impérialisme allemand, si tu veux.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on sort aussi avec cette analyse du caractère exceptionnel du nazisme, en fait.
C'est ça.
Et on arrive sur, en fait, par montrer beaucoup de continuité, par exemple, avec finalement le masochisme, moi, ça me fait quand même beaucoup penser à l'éthique protestante, l'ascétisme, Kant, enfin vraiment une espèce de la personnalité, enfin la subjectivité capitaliste dans la période de l'accumulation primitive, qui est uniquement dure, faite d'épargne, sans sueur, tout ça. Parce que il y a quand même un côté sadique dans le nazisme, mais aussi un côté du sacrifice, quoi. Surtout à la fin, là le côté masochiste revient à fond, parce que en 44-45, tout est perdu et on se suicide quand même massivement jusqu'au bout, quoi. Alors qu'il n'y a plus vraiment de décharge à espérer, si ce n'est la mort d'une certaine façon.
Et d'ailleurs, ça c'est là où vraiment l'inscription de la psychanalyse dans le marxisme chez Reich fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et d'ailleurs, moi, je parle d'inscription ou d'intégration du freudisme dans le marxisme, mais pas de freudo-marxisme. Freudo-marxisme, ça veut dire qu'on fait un espèce de mixte étrange. En fait, il y a une pensée sociale marxiste, et dedans, à l'échelle des individus, à l'échelle des psychologies, Reich va y mettre la pensée psychanalytique. Donc, c'est pas vraiment du freudo-marxisme, c'est l'incorporation du freudisme dans le marxisme, si on veut. Et c'est là où ça marche vraiment, vraiment très bien, et ça, c'est vraiment le génie de ce texte, c'est de penser, dans ce passage du masochisme au sadisme, un phénomène qu'on étudie déjà à l'échelle des individus, à l'échelle des névrosés. C'est-à-dire qu'il y a une co-appartenance, en fait, du masochisme et du sadisme, psychanalytiquement, qu'on observe même chez les gens qui en sont sujets. C'est-à-dire qu'à un certain degré de masochisme, le masochisme devient un sadisme. C'est-à-dire, à un certain degré, par exemple, de désir de souffrance, on jouit de, finalement, de la violence que l'on fait sur l'autre, d'accepter de nous faire si mal. Et à l'inverse, à un certain degré de sadisme, ce sadisme devient un masochisme, en ce sens qu'on jouit de finalement se rabaisser tellement qu'on en vient à devenir un monstre. Et celui qui montrait bien ça, alors là, il y aurait des boucles intéressantes, intellectuelles à faire, c'est évidemment Pasolini dans Salò, dans sa version des 120 journées de Sodome, puisque quand on voit les fascistes sadiques mis en scène dans le film de Pasolini, à la fin, ces gens horribles et terrifiants, on comprend qu'en fait, ce sont des masochistes. Ils jouissent de se rabaisser à devenir sadiques. Et ces deux impasses émotionnelles, ces deux impasses libidinales que sont le masochisme et le sadisme, et qui sont contraints, selon Reich, par la société capitaliste elle-même, et même finalement par l'aliénation sociale en général, parce qu'on la trouve évidemment dans les sociétés précapitalistes. Ce rapport masochique-sadique, bon, si on fait de l'ethnologie et qu'on étudie les sociétés précapitalistes, ça existait sous d'autres formes, par exemple sur des formes très différentes. Eh bien, grâce à cette analyse de Reich, on voit à quel point masochisme et sadisme se co-appartiennent. Se co-appartiennent à la mesure où tous deux sont deux apories, deux formes d'apories qui ont la même source, qui est l'absence de construction, d'émancipation sociale, cette création du bonheur à la fois de tous et de chacun, dont parlait Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste.
Oui, c'est intéressant parce que là, on n'est pas que dans l'analyse du fascisme qui, d'une certaine façon, est une sorte de cas limite de la psychologie de masse du capitalisme, pour le coup, parce que c'était un peu ça le titre aussi de l'émission, parce que à la fois, on peut dire que dans cette époque, sans parler du nazisme, bien sûr, le capitalisme allemand et le capitalisme en général au XXe siècle fonctionnent à la fois par le sadisme, avec des rapports sociaux qui sont quand même relativement qui sont durs, qui sont des rapports d'exploitation. Je veux dire, il y a une espèce de chaîne de rapports sociaux extrêmement durs, sadiques. Le patriarcat, évidemment, hein, qui est quand même une forme de sadisme là qu'on retrouve à l'intérieur du monde ouvrier. Hein, qu'il ne faut pas idéaliser et seulement poser comme victime du sadisme.
Et que le nazisme a surexploité à un degré...
Hallucinant aussi, oui, pour le coup. Et d'un autre côté, on a le côté masochiste. Toute la société capitaliste fonctionne par le... Et alors, c'est de pire en pire, plus on est en bas dans l'échelle sociale, dans l'échelle des classes, sur l'acceptation des contraintes impersonnelles du capitalisme d'abord, et puis ensuite des contraintes hiérarchiques liées à l'armée, l'usine, etc., etc. Et on voit bien que, finalement, ce que tu décris là, c'est vraiment... c'est pas un outil juste pour analyser le fascisme, et même pas seulement pour analyser le capitalisme qu'on pourrait dire un peu à la dure du 19e siècle, première moitié du 20e, mais c'est vraiment une analyse aussi qui marche bien aujourd'hui, quoi.
Ça, c'est vraiment le génie de Reich dans ce texte, hein, pour le dire tout simplement. Il a compris que le capitalisme n'est pas seulement une forme d'exploitation économique et sociale, c'est aussi une forme psychologique. Et une forme psychologique aliéné, mortifère, et donc finalement, comme tu le dis, le nazisme est le cas limite qui le révèle. D'ailleurs, quand je disais qu'il y avait plusieurs livres dans ce livre, il y aurait d'autres travaux à mettre en avant. J'ai parlé de l'antistalinisme de Reich, sa critique du stalinisme est passionnante, et dès le début, il comprend ce qui se joue là-bas, il comprend notamment le caractère fallacieux du stalinisme, à quel point cette collectivisation des moyens de production de la société contrôlés par l'État et la bureaucratie est vraiment une parodie de ce qu'imaginait le mouvement ouvrier. Et notamment, là, clairement, Reich est un conseilliste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il se revendique du concept de soviet, etc. Autre passage qui est assez court, mais qui mériterait un travail précis et qui montre à quel point la théorie de Reich vraiment nous invite à penser par-delà la simple question du nazisme. Il y a un passage, moi, que je trouve fascinant, et je pense peut-être qu'un jour, j'écrirai là-dessus, si j'ai un peu plus de sources historiques. C'est tout un passage sur le Japon, sur la spécificité du fascisme japonais. Moi, j'ai jamais lu, en dehors du travail de Reich, d'analyse aussi précise, bien qu'en fait, il se sert du travail de quelqu'un d'autre, d'un Américain, mais qu'il cite, sur la spécificité du fascisme et de l'impérialisme japonais à la même époque. de son racisme consubstantiel et aussi de, finalement, de son mysticisme idéaliste, parce qu'il y a toute une mystique de l'empereur comme Dieu sur Terre, etc. Alors dans un contexte qui en plus n'est même pas judéo-chrétien, ce qui est assez fascinant pour nous, parce que par-delà ce que tu disais sur les origines protestantes du capitalisme, on voit dans un monde qui est complètement extérieur au judéo-christianisme, ces processus se reproduisent dans une société marquée plutôt par le shinto et le bouddhisme. Et là, il y a peut-être même un autre Reich à redécouvrir dans ce texte-là, sur son analyse sur le Japon. J'invite les lecteurs à chercher ce court passage, peut-être de 2-3 pages, mais qui, moi, m'a énormément éclairé sur un sujet, là aussi, qui est très, très peu connu, j'ai l'impression, en tout cas, en dehors des spécialistes de l'histoire du Japon en Europe, la spécificité du fascisme, de l'impérialisme japonais en Asie, et alors qu'il a eu des conséquences tout aussi terrifiantes, évidemment,
que des dizaines de millions de morts.
Voilà, notamment en Chine, etc. Voilà, Reich est vraiment un auteur qui est plus multiple qu'on le croit. Il ne pose pas que la question du nazisme, et de même qu'il arrive très bien à penser à la fois le bismarckisme, le stalinisme et le fascisme japonais, voilà, il faudrait aussi l'utiliser pour penser la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et notamment le néo-nationalisme dont tu nous parlais en début d'émission.
Oui, en fait, ce que propose Reich, c'est... moi, j'ai l'impression que ce qui m'a beaucoup intéressé chez Reich, c'est qui pose, il répond pas à tout, évidemment, il y a plein de choses qui sont problématiques, mais il pose, je pense quand même, c'est celui qui pose le mieux les bases d'une théorie sociale, psychique du capitalisme, en général, et de ses différentes formes politiques, parce qu'il est quand même assez fin, il analyse quand même les différences et tout ça, comme tu l'as dit avec le fascisme japonais. Mais à la fois, il est attentif aux différences, et en même temps, il arrive à penser quand même l'unité de ces phénomènes. Et c'est vrai que là, c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que dans la deuxième partie de l'émission, on essaiera vraiment de tirer tout ce qu'on peut de l'analyse de Reich.
De nos songes éblouissants, nous enfin prêts à souffler lentement sur nos rêves ardents, ne nous pressons pas, dégustons la fête avant de la manger. Pas de train à rater ce soir, à part notre inavouable espoir. Abolir le temps qu'il faut, il court trop vite, il est trop lent. Tôt ou tard, nous n'attendrons plus de retarder le moment. Un appétit affronte l'horloge, n'est pas seconde, n'est pas à vendre. Pas celui-là, l'étreinte éternelle ne suffira pas. C'est joli parfois de se perdre. Raconte-moi, t'es là toi aussi. Viens donc faire un tour hors la loi. Raconte-moi ces belles histoires de cœur, d'indicibles douceurs, pour lesquelles les mots d'aujourd'hui, hélas, n'ont pas l'épaisseur. Salut à toi, frémissant comme le vent sensuel de Bretagne, qui exagère et qui s'enrage comme l'orage en montagne, qui lance la foule, se saoule de solitude, allégresse de tristesse. Toi qui es toujours là, mais qui ne te soumettra pas. Les guitare s'accorde et on démarre au bar de l'art du grand écart. Un bateau ivre sort du port, son sort c'est lâcher les amarres. Les voix déraillent, les cœurs s'emballent, les corps se noient dans les marées. Au fond des eaux sentimentales, y arriver à pleurer. Les portes s'ouvrent comme nos cœurs fébriles aux incidents majeurs. Le rideau tombe en poussière, les yeux de braise brûlent l'atmosphère. L'histoire sombre d'immense démence, le poète boit un coup sec. Cette nuit s'annonce intense dans notre cabaret Métèque. Cette nuit s'annonce intense dans notre cabaret Métèque. Cette nuit s'annonce intense dans notre cabaret Métèque. Cette nuit. Dans notre cabaret.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la psychologie de masse du fascisme et du capitalisme. Et dans cette émission, nous sommes avec Pierre-Ulysse Baranque, doctorant à Paris 1, co-directeur de In Situ, donc un ouvrage sur Guy Debord et Raoul Van Eyghem, et d'un article sur la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission. Et là, on aimerait bien, donc après cette première partie d'émission, actualiser la pensée de la théorie de Reich au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette théorie? Alors, outre le fait que ce qu'on a déjà dit, c'est que il faut abandonner l'idée de la théologie révolutionnaire, que la société libertaire, communiste, sans classe, émancipée, viendra uniquement par le pur jeu des structures capitalistes. Il faut également prendre sérieusement en considération que la crise ne débouche pas, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, forcément sur un immense mouvement d'émancipation, mais en l'occurrence surtout sur un mouvement d'un nationalisme agressif, notamment avec Trump aux États-Unis, avec Alternative für Deutschland en Allemagne, le Front National en France, tous les groupuscules qui vont avec, hein, on pense évidemment en Égalité et Réconciliation. Et du coup, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette théorie aujourd'hui. Et je pense que là, il y aurait deux plans, deux temps. À la fois, qu'est-ce qui changé quand même dans la manipulation de la psyché et de la frustration des individus. Donc, c'est une frustration qui est créée socialement par le capitalisme. La manipulation change un petit peu quand même, on n'est plus dans les années 20 ou 30, même s'il y a un début de société de consommation et de société du spectacle à cette époque, mais bon, elle est quand même beaucoup moins énorme et omniprésente qu'aujourd'hui. Et à la fois, quelles sont quand même les continuités, on le voit bien avec donc ce néo-nationalisme. Et je voudrais, pour montrer quand même qu'il y a, il y a ces deux temps, mais qui finalement sont liés quand même, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce. Anselm Jappe, donc, qui est un théoricien de la critique de la valeur, va sortir en septembre un ouvrage qui s'appelle « La société autophage » et qui essaye de penser ce que fait le capitalisme, et notamment le capitalisme du XXIe siècle, le capitalisme de la société du spectacle, à la psyché. Et lui, il parle, pour parler de cette subjectivité façonnée par le capitalisme, il parle de narcissisme. Donc non pas au sens de quelqu'un qui s'aime soi-même un peu trop, comme on l'entend dans le sens habituel, mais plutôt comme des individus qui ont un moi extrêmement faible, faiblement développé, et qui, développent tout un tas de pathologies à cause de ce moi faible, donc que ce soit donc, par un surcroît d'égocentrisme, par le carriérisme, ou jusqu'à les suicides avec les tueries de masse, où on existe enfin médiatiquement, on se décharge d'une certaine façon, comme on en a parlé dans la première partie de l'émission,
on se décharge et on se suicide. Et là, d'ailleurs, on voit encore une fois les liens entre le sadisme et le masochisme. Alors, ce que je trouve un peu problématique avec cette théorie du narcissisme, c'est qu'on peut avoir l'idée que finalement, le narcissisme renvoie quand même beaucoup à la notion d'individualisme, même si du coup, c'est un espèce d'individualisme faible. Et donc, on pourrait avoir l'impression que ça, finalement, c'est une critique de l'individualisme qui peut facilement passer pour réactionnaire. Hein. Pour donner un exemple, Francis Cousin, qui est un théoricien réactionnaire, qui essaye d'utiliser Marx et Debord de manière de manière clairement réactionnaire, hein, pour le coup, qui dit que l'homosexualité, c'est narcissique, tout un tas d'horreurs de ce genre. Lui, il reprend cette théorie du narcissisme, d'ailleurs, de manière très différente de Japp, hein. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on trouve chez Adorno et chez Reich en même temps l'idée que finalement le narcissisme, donc c'est ce moi faible, et ce moi faible, pourquoi est-ce qu'il est faible? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas épanoui. Donc là, on revient à la question de la frustration. Les individus sont frustrés de leur vie, il y a une misère existentielle, et de la souffrance, mais aussi de l'ennui. Et donc ça crée une personnalité faible, et qui a deux aspects. D'une part, comme on l'a dit, ça peut avoir un aspect ultra-individualiste, c'est-à-dire qu'on va chercher à se décharger de cette frustration existentielle, que ce soit se décharger de la misère sexuelle par la pornographie, que ce soit décharger de la misère de la vie de manière générale par la consommation, par le spectacle, par l'identification à des vedettes, vivre sa vie par procuration, comme disait une chanson. Et en même temps, Adorno et Reich nous permettent de penser qu'il y a aussi une autre face. Donc là, je cite Adorno. Il y a des individus qui n'ont à leur disposition qu'un moi faible et qui ont par conséquent besoin comme substitut de l'identification à un grand collectif et à sa couverture. Et donc là, on voit que le nazisme aussi a aussi pu être une réponse aux frustrations des gens, aussi parce qu'il permettait de dépasser disons ce moi extrêmement faible replié sur lui-même qui prend toutes les contradictions et toute la violence sociale dans la gueule par l'identification à un gigantesque sujet collectif, la race, la nation et tout ça. Et donc là, évidemment, comment ne pas penser à la situation aujourd'hui du néo-nationalisme avec la France, Make America Great Again et tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je m'y attendais pas trop, mais Wilhelm Reich lui-même parle dans la psychologie de masse du fascisme, dans l'édition de 72 aux éditions Payot, page 75, de narcissisme national. Et donc, on pourrait dire, c'est une contradiction. Comment est-ce qu'un individu qui a un moi extrêmement faible, qui est replié sur lui-même, parce que c'est ça aussi la définition du narcissisme, c'est un individu replié sur lui-même, qui a du mal à vraiment créer du lien social, qui a pas justement créé de lien érotique, au sens très large, hein, amicaux, amoureux, avec d'autres personnes que lui. Comment est-ce que, du coup, il va, pour dépasser ce repli sur soi, finalement, se grouper dans un immense collectif, et là, ça me fait penser aussi à Debord, finalement, il va se réunir en tant que séparé dans des gigantesques masses.
Alors, je ne connais pas encore le travail de Japp sur le narcissisme, mais j'attends sa publication avec un grand intérêt, car je pense que, comme dans beaucoup d'autres ouvrages, il va vraiment très probablement produire une lecture nouvelle et très importante pour vraiment comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc je parlerai pas évidemment du travail d'Anselm Japp, mais pas pour la problématique que tu viens de nous dire. Je vois qu'il y a deux aspects qui sont fondamentaux et qui reviennent à chaque fois sur cette question, à la fois du narcissisme, de la subjectivité aliénée, etc. La première, on la retrouve chez Marx, tu vois. On peut répéter une deuxième fois Marx et Freud. La première, c'est la constatation par Marx dès les manuscrits de 1844, puis le manifeste, toute son œuvre, que les individus ne peuvent pas créer les conditions d'une vie satisfaisante. Ils ne peuvent pas les créer à un degré matériel, ils ne peuvent pas les créer à un niveau social. Et évidemment, s'ils ne peuvent pas le créer à un niveau matériel de survie biologique et sociale, d'organisation de la société, ils ne peuvent pas le développer à un degré psychique. Donc la question de la création des conditions de la vie, avons-nous les moyens de créer les conditions de notre liberté ou pas? C'est ça la question politique, et la question politique centrale qui est à l'origine de tout le mouvement anarchiste, communiste, c'est le cœur de la réflexion du conseillisme. Pourquoi on crée des conseils? Pourquoi on se met ensemble pour discuter Pourquoi on crée des agora, on ne les crée pas dans le vent juste pour parler et se faire plaisir. On le fait pour créer, changer les conditions de la vie. Et c'est ce qu'on fait bon, à la fois les soviets au début de la Révolution ou les communautés libertaires d'Aragon et de Catalogne en 1936. Donc la question de créer les conditions de la vie, d'une vie satisfaisante à la fois pour les individus et à la fois pour le groupe, pour chacun et pour tous, on pourrait dire. Il n'est pas très très dur de constater que dans le capitalisme d'aujourd'hui, comme celui des années 30, les conditions, la création des conditions d'une vie satisfaisante pour tous et pour chacun n'existe pas, sont même empêchées. On ne donne pas aux gens les moyens de créer leur vie, leur vie à la fois singulière ou plurielle. Le deuxième aspect, et qui est là vraiment au cœur de la pensée de Freud, et là je répète des choses qui sont vraiment les éléments presque de la pensée de la pensée freudienne, c'est que la névrose, et le narcissisme en est une, la névrose est toujours un compromis psychique, issu des contradictions de l'individu. C'est-à-dire que la névrose que va choisir, bon an, mal an, un individu, c'est la situation où il vit le moins de souffrances possibles, qui est souvent des situations catastrophiques pour lui. Mais c'est la situation psychique, et donc psychosocial, parce qu'il ne vit pas seul, c'est la situation psychique dans laquelle il souffre le moins. L'exemple, l'un des exemples les plus clairs, et qui est notamment bien expliqué par Deleuze, c'est vraiment la question de l'alcoolisme. Quand Deleuze pense à l'alcoolisme, lui qui a été alcoolique pendant des années, il dit, qu'est-ce que cherche l'alcoolique? Il cherche l'avant-dernier verre pour pouvoir continuer le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de créer une situation où je vais produire une situation où je souffre, mais où je vais souffrir le moins possible. Parce que si je ne crée pas ces situations névrotiques où je souffre le moins possible, c'est l'autodestruction. Autrement dit, c'est choisir, entre deux mots, choisir le moindre, et une névrose comme le narcissisme ou comme certaines formes de toxicomanie, comme peut-être l'alcoolisme, etc., qu'est-ce qui est en jeu? C'est un sujet qui, pris au piège d'une société qui ne lui permet pas de créer son bonheur, va créer une situation de compromis douloureux qui est souffrir le moins possible, à ceci près que c'est une situation vraiment aliénée, vraiment, c'est vraiment, on pourrait dire, un cul-de-sac. Et ce que fait le névrosé, le narcissique, l'alcoolique, et on pourrait prendre tous les différents exemples, ce n'est que retarder ce processus d'autodestruction. C'est pour ça qu'il y a souvent des crises, et des crises qui d'ailleurs des fois peuvent prendre des formes psychotiques, etc. Des crises dont, dans certains cas, le symptôme en est le suicide, évident, puisque à retarder la situation de contradiction, parce que j'accepte une situation où je souffre moins, un jour ou l'autre, la contradiction saute aux yeux, explose, et ça produit, comme je dis, ou le suicide, ou les pratiques à risque, etc. Et en gros, des situations de quasi-suicide social, si ce n'est pas un suicide physique, si tu veux, ou de suicide psychologique. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'évidemment, le narcissique, ce n'est pas seulement celui qui s'aime bien, celui qui se trouve beau dans une glace, c'est finalement celui qui a le moins de subjectivité. Ce n'est pas celui qui en a trop, c'est celui qui en a le moins. Car s'il avait une subjectivité réalisée, une subjectivité accomplie, cette subjectivité rencontrerait l'autre, évidemment. Puisque le grand apport quand même du marxisme, et c'est là où la pensée de Marx quand même anticipe et dépasse des fois même la sociologie universitaire, son grand apport, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de social, il n'y a pas le social, il n'y a que des rapports sociaux, c'est des rapports entre des individus. Et que la liberté d'un individu et la liberté du groupe, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de choisir la liberté de l'individu et l'auto-glorification du narcissisme, qui est en fait une expression de sa faiblesse, ou imaginer des super individus, des narcissismes collectifs, des narcissismes nationaux dont tu nous as parlé, qui va être la projection sur le groupe de la souffrance individuelle. Dans les deux cas, c'est une aporie, que ce soit dans la souffrance individuelle du narcissique solitaire et névrosé, ou dans ce narcissisme projeté sur le groupe, ce narcissisme collectif, ce narcissisme national, puisque la création d'une vie émancipée, c'est une création de rapports sociaux, c'est-à-dire finalement créer, prendre soin des tissages sociaux qui nous constituent, des rapports aux autres, que ce soit l'autre immédiat les gens avec qui je vis, mon quartier, mes amis, etc. Mais même les autres à l'échelle de l'humanité, puisque dans la situation économique, dans la consommation économique, nous sommes en rapport avec l'humanité entière. Si j'utilise, je ne sais pas, par exemple, un ordinateur portable, je suis en médiation avec les travailleurs chinois qui l'ont constitué et avec les travailleurs congolais surexploités dans les mines, sans lesquels il n'y aurait pas la matière première. C'est pour ça qu'évidemment, la création de l'émancipation, elle est vraie, à la fois à l'échelle ultra-locale, et ça c'est ce que pensent les autonomies politiques, on a parlé dans le cas espagnol, ou parmi les autonomies sympathistes, etc., se libérer à l'échelle ultra-locale de la vie que j'expérimente immédiatement, mais aussi à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, car finalement nous sommes tous traversés par les rapports sociaux de l'humanité elle-même. Les objets techniques que nous utilisons en sont un des exemples, ouais. L'incarnation, mais qu'une incarnation parmi d'autres.
Et finalement, c'est intéressant que tu aies amené le concept de compensation. C'est vrai qu'on avait un peu oublié d'en parler dans la première partie, parce que finalement, on pourrait dire société de consommation, on parle beaucoup de la société de consommation, mais en fait, on pourrait presque dire qu'on est dans une société de la compensation. C'est-à-dire que par le travail par l'atomisation, et l'atomisation qu'il ne faut pas comprendre que dans un sens individualiste, parce que l'atomisation... c'est aussi, dialectiquement, le fait qu'on va être regroupé dans des immenses sujets collectifs, la nation, la race et tout, qui finalement sont un peu l'envers de l'atomisation. L'individu tout seul, et en même temps qui fait partie d'un gigantesque collectif, dont finalement il n'est membre que de manière un peu fantasmatique, quoi. Même s'il y a évidemment toujours des trucs matériaux, comme la carte d'identité, et en général, effectivement, c'est quand même beaucoup de choses dans notre société d'avoir une carte d'identité, ou pas, ça on le sait bien. Mais du coup, société de compensation, parce que finalement, donc ces individus qui sont frustrés par leur atomisation, par leur souffrance psychique individuelle, par l'impossibilité de s'épanouir, notamment au niveau des liens sociaux, c'est assez évident. Quand toute la société, quand les liens sociaux avec les autres passent principalement par le travail, par la consommation, ou par des rapports de domination interpersonnels, comme le patriarcat et tout ça, c'est évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'épanouissement dans les relations intersubjectives. Et donc, le capitalisme qui a, et pas que le capitalisme d'ailleurs, le patriarcat et d'autres, voilà, toute cette constellation de systèmes sociaux oppressifs, derrière, finalement, amène la société de compensation, d'une certaine façon, en proposant... voilà la solution à la misère sexuelle qui est à la fois un produit du capitalisme et du patriarcat, la pornographie ou des formes donc de jouissance pauvre, comme tu disais, et puis société de compensation par le spectacle. J'aime bien toujours cette chanson un peu bête qui parle de vivre sa vie par procuration devant le poste de télévision, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, on est vraiment à la société de compensation, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est pas une critique réactionnaire du genre ah c'est pas bien la pornographie ou de regarder des séries et tout ça. Au contraire, c'est dire que en fait c'est les individus n'ont pas le choix, dans le cas d'une société comme la nôtre, n'ont pas de choix autre que, comme tu disais bien, de chercher moins de souffrance à un moment, moins de souffrance sexuelle, moins de souffrance dans l'épanouissement individuel. Mais ce qui est terrible, c'est que la société capitaliste se renforce à son tour avec cette compensation. Et donc on est un peu dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que beaucoup d'individus sont psychologiquement détruits par cette société. Et je trouvais que c'était, c'est vraiment important de il faut pas la psychologie doit pas être un domaine séparé de la critique sociale, parce qu'on voit bien les implications claires qu'elle a aujourd'hui. Et qu'elle a aujourd'hui, à la fois donc dans toutes les formes de... Parce qu'il y a deux formes de compensation. On parlait de la décharge individualiste dans le narcissisme et de la décharge collective. Et bien pareil, la compensation, elle peut être individualiste, donc à travers le carriérisme aussi, qui est aussi une forme, là plutôt la partie un peu sadique, quoi. On sait, par exemple, Christophe Dejour a pas mal théorisé ça sur l'importance du sadisme et du narcissisme dans l'organisation du travail et du management. Chez les cadres, ça les fait vivre, entre guillemets. Et d'un autre
survivre.
Survivre, voilà, disons, survivre psychologiquement. Et d'un autre côté, donc il y a la compensation collective. Et là, vraiment, le retour de toutes les idéologies de crise, de l'antisémitisme, évidemment la montée du racisme anti-musulman, la montée du racisme de manière générale, la remontée du nationalisme agressif. Tout ça, évidemment, on peut le voir que ça prend sa racine, alors évidemment, dans le capitalisme lui-même, mais par l'étape intermédiaire quand même de la frustration individuelle, du narcissisme et de la recherche de compensation. Imaginez que cette décharge, on n'est pas au bout, entre guillemets, de cette décharge et des ravages qu'elle peut provoquer.
Oui, oui. Mais quand tu parlais de jouissance pauvre, en reprenant un peu l'idée que je développais sur le sadisme, la conception du sadisme chez Reich, jouissance pauvre, le problème, c'est pas qu'elle est seulement pauvre, au sens qu'elle serait faible, pas assez développée, qu'on pourrait avoir une vie plus satisfaisante, plus intense, etc. Si c'était que ça le problème, à la limite, pauvre ou jouissance riche, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit toute l'analyse, l'esthétique magnifique du zen, etc., comme esthétique du manque, de la disparition, etc. C'est pas ça la question, évidemment pas. C'est pas avoir une vie plus ou moins intéressante. La jouissance pauvre, elle est pauvre dans la mesure où c'est une jouissance sans l'autre.
C'est presque sans soi-même.
Voilà, sans l'autre, donc sans soi-même. Et la conclusion qui va très vite arriver dans cette expérience émotionnelle sans l'autre, c'est que très vite, elle va se jouer contre l'autre. C'est-à-dire qu'on passe de l'absence de relation à l'autre, qui est constitutif, en gros, de l'aliénation des rapports sociaux dans le capitalisme, à vraiment une jouissance contre l'autre, donc on revient aux effets de violence, au sadisme, etc. Et jouir contre l'autre, dans le mépris de l'autre, etc., et que là aussi, il n'est pas très très dur de le constater au quotidien, c'est pour ça que Reich est vraiment très éclairant, et que des phénomènes sociaux aussi larges, aussi macroscopiques, aussi fondamentaux que le patriarcat, la domination masculine ou le racisme en sont le produit. C'est réellement cette situation-là, et sur des questions très très concrètes. Il suffit de regarder, bon, par exemple, sur la question du patriarcat, en plus de l'inégalité sociale, même de la violence faite aux femmes, je veux dire de la violence physique. La question, par exemple, des femmes battues, c'est une situation catastrophique à l'échelle, ne serait-ce que de ce pays. Et de même, sur ce racisme qui est souvent fantasmé, réalisé de façon compensatoire dans l'imagination via les grands médias du spectacle, la télévision, etc., et qui passe à l'acte. Aussi, passe à l'acte dans des actes racistes très concrets et passe à l'acte sous la forme de sa représentation politique avec un parti comme le Front National, qui est le moment où un individu peut exprimer officiellement toute cette haine qu'il a contre une partie de son propre peuple, de ses voisins, etc., à travers un acte qui, de surcroît, il imagine être citoyen.
Oui.
C'est quand même pas mal.
Et c'est intéressant quand même, cet exemple que tu donnes justement sur le Front National, c'est que on est vraiment... quand on parlait de bouc émissaire tout à l'heure, le bouc émissaire, c'est pas simplement un bouc émissaire théorique. C'est un bouc émissaire psychique, en fait. C'est-à-dire, c'est une manière de décharger sa frustration individuelle qui provient du système capitaliste, du patriarcat et tout ça, sur une petite partie, une fraction de la population qui en réalité n'est pas du tout la cause de cette frustration et de cette compensation. Et c'est là où on voit que, à l'inverse d'une forme de relativisme un peu politique, on pourrait dire, oui, finalement, chacun a ses opinions politiques. Non, il y a des formes, la plupart des formes politiques aujourd'hui sont en réalité des formes de compensation. Alors des compensations à travers le dynamisme de la France et l'international, ça c'est Emmanuel Macron. Compensation à travers non à la finance de vivre les classes moyennes, le peuple de Jean-Luc Mélenchon. Ou compensation raciste, patriarcale, chez Alain Soral ou chez Marine Le Pen de manière différente. Et c'est là où, quand même, le communisme libertaire ou, disons, les pensées émancipatrices, la grosse différence qu'elles ont quand même avec le reste de ces pensées, justement, de ne pas rechercher la décharge, mais au contraire d'aller à la racine, entre guillemets, du problème, pour reprendre l'expression de Marx, et d'aller à la racine des frustrations individuelles qui génèrent tous les maux sociaux. Et donc, la racine, effectivement, dans ce cas-là, c'est le capitalisme, le patriarcat, le racisme structurel. Et c'est vrai que là-dessus, on voit bien que l'analyse de Reich, et plus généralement une psychologie sociale de masse, une psychologie de masse du fascisme, du capitalisme, du patriarcat, hyper éclairante pour aujourd'hui, pour à la fois pour analyser la situation dans laquelle on est, arrêter de se faire des illusions sur le mouvement d'histoire qui amènerait vers le communisme, et aussi pour qui est quand même le principal argument en faveur des mouvements d'émancipation, c'est d'arrêter de chercher une compensation éphémère à un problème. Mais de rechercher l'épanouissement des individus.
Ce que certains courants contemporains parlent de la création de l'autonomie, tu vois, qui ne s'arrête jamais.
Ou de la communisation, ça va ensemble. C'est l'idée d'un processus de création anti-politique, presque.
Ça, oui, si tu veux, ça dépend toujours de la définition de mot politique. Si on entend ensemble de
anti-politique
police.
Au sens de la structure capitaliste, qui justement.
C'est certain, et la structure étatique même, hein, également.
La structure étatique, quoi. Qui justement est sans cesse un réaménagement de une compensation un peu différente. On va compenser. En fait, on pourrait dire que les programmes politiques, c'est des programmes de compensation. Bon, eh bien, en attendant la création, qu'on espère et qu'on essaye d'impulser.
On peut commencer dès maintenant. Hein.
C'est ça, on peut commencer dès maintenant.
Il n'est jamais trop tôt pour la révolution.
C'est ça. Donc en attendant ça, on espère que cette émission a été éclairante, non pas tellement en fait sur l'analyse du fascisme, de sa montée dans les années 30, mais surtout pour éclairer la situation contemporaine de multiples manières, à la fois comprendre que le capitalisme c'est aussi un système de fabrication de la frustration et de manipulation de cette frustration et de son utilisation, que également les mouvements néo-nationalistes qui en même temps ne proposent pas de supprimer cette frustration, mais seulement d'opérer une forme de compensation et de déchargement,
de l'exploiter de manière permanente. Hein.
C'est ça, de l'exploiter de manière permanente.
Ce système d'exploitation lui-même.
Hein. Et une pensée émancipatrice, une pensée de l'émancipation, ne doit pas justement du tout être un programme politique qui vise à des nouvelles compensations éphémères, un peu moins de finances, un peu plus d'État et tout ça, mais un programme d'émancipation, de destruction des structures sociales qui causent la frustration, la souffrance individuelle comme collective. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait parler de Reich. On invite les gens qui veulent en savoir plus à lire ce livre très intéressant, La psychologie de masse du fascisme, à lire aussi l'article de notre invité Pierre-Ulysse Baranque sur Contretemps, et éventuellement, pourquoi pas, de lire des auteurs qui peuvent s'inspirer de Reich aujourd'hui, que ce soit des courants... Voilà, marxiste révolutionnaire, je ne sais pas si tu avais...
Mais moi, je vois un grand disciple de Reich, c'est Raoul Vanneghem, sur lequel j'ai écrit. Et pour moi, Vanneghem est un auteur fondamental, dans la mesure où, pour le coup, s'il y a un théoricien qui a développé une conception non sadique de la révolution, notamment en se réappropriant d'une manière laïcisée des concepts issus de l'alchimie et aussi du fin amour, hein, des troubadours, hein, il en parle dans l'interview que j'ai faite avec lui dans l'ouvrage qu'on avait publié in situ. Vraiment, Vanneghem, grand auteur sur cette question-là, vraiment le grand Reichien, je pensais, en tout cas dans le monde francophone. Et puis, il y a les textes du comité érotique révolutionnaire, paraît-il, que j'ai lus, qui sont passionnants.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Thank you.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.